nul un partout. Colomiers a perdu la première place au profit de Marignane, mais là aussi encore, rien n'est fait pour les Columériens qui peuvent encore aspirer à une montée.
Je vois David réagir un peu de la tête. C'est des résultats que vous suivez, Rodez, Colomiers ?
Oui, je suis les résultats des clubs qui nous représentent sur le plan national. Et on a tous envie que Rodez et Colomiers grimpent de niveau.
Ça serait, c'est possible, hein,
oui, totalement. Oui.
C'est pas fait, mais c'est possible.
Mais pour le football de notre région, ce serait vraiment extraordinaire. Puisque depuis, malheureusement, l'affaire Luzenac, on attend un nouveau club en Ligue 2.
Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'à part Toulouse,
à part
on n'est pas
représenté. Ouais, exactement, si on peut avoir le TFC en Ligue 1, Rodez en Ligue 2 et Colombien National, ce serait un sacré coup.
Quentin ?
Eh bien, réponse avant l'été, messieurs. En National 3, deux matchs la semaine dernière plutôt pour le Rodéo. Une victoire d'abord 3-0 contre Blagnac et ensuite une victoire à Mende 1-0 également. Alors que pour Blagnac, deux matchs également, mais deux défaites. À Rodéo, donc 3-0 et à Fabregue, 4 buts à 2. Le Castanet de Cyril Garcia s'est incliné à Narbonne, 1 but à 0. Tandis que les réserves du TFC et de Montpellier se sont affrontées et ce sont les Montpelliérains qui ont gagné 3 buts à 2. Et petit clin d'œil à notre invité de la semaine dernière, Cédric Dutour, qui a arbitré un match qui a dû être arrêté, Luznac Balma, toujours en National 3, à cause de la neige.
Oui, pas à cause de bagarres.
Non, bien évidemment, à cause des conditions climatiques.
Et chez les jeunes, les Pitchouns prennent le cas en Gambardella.
Exactement, Romain, victoire 3-0 pour le TFC contre Ajaccio. Donc voilà, le top 8 pour les jeunes de Jean-Christophe Debut qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, contrat rempli pour les 19 du TFC. Au niveau des féminines, Rodez s'est incliné à Soyaux, 3 buts à 2. Tandis qu'Albi est tombé à domicile contre l'OM, 2 buts à 0. En futsal, week-end noir également pour les deux représentants toulousains. Garges a battu l'UJS, 8 buts à 2, tandis que Bruguière s'est incliné à Roubaix, 4 buts à 1.
Alors, à part la qualification des Pitchouns, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que les résultats cette semaine sont assez mauvais au niveau régional pour nos équipes. Et au niveau régional, alors quels sont les résultats à retenir, Quentin ?
Eh bien, en DH d'abord, la défaite de Giroux à domicile, 1 but à 0 contre les Pradines, la victoire d'Honnête-le-Château, 3 buts à 2 contre Golfech, et la victoire des Pradines, 2-1 contre Auch. En DHR, la victoire dans la poule A de Fonsorbe, DHR R2 bien entendu, hein, nouvelle nomination, autant pour moi, Fonsorbe 2 buts à 0 contre la B de Auch et Seyss 1-0 contre Juillan. Et dans la poule B, Saint-Alban a battu le TMFC, la réserve du TMFC 3 buts à 0, Grisol a battu Caz 3 buts à 1 et le Montauban de monsieur David Quadri a fait qu'une bouchée, on peut le dire, de Saint-Aurin 6 buts à 1.
Je sais pas si sur, il dira ça comme ça. Mais...
Sur le score, oui, après... On va rester modeste puisqu'on sort de deux défaites sur les deux derniers week-ends. Donc, c'est une belle victoire. Voilà, on va dire une belle victoire.
Un bon moyen de repartir de l'avant.
Et on connaît les demi-finalistes de la Coupe d'Occitanie.
Exactement. Eh bien, la logique a été respectée sur chacune des confrontations. La baie de Rodez, pensionnaire de R1, a battu la réserve de Colomiers, pensionnaire de R2. Mais il a fallu aller jusqu'au tir au but. 3 partout à l'issue des 120 minutes et 4 buts à 3 dans la séance des pénaltys. Albi de R1 a battu la réserve de Tarbes 2 en R2, 2 buts à 1. Giroux, qui avait déjà perdu en championnat, s'est incliné contre Luc Laprimob, également pensionnaire de R1, 4-0 à domicile. Et enfin, pensionnaire de R2, Porté a battu la réserve de Balma, 3 buts à 0.
Elle est intéressante, cette Coupe d'Occitanie. Merci Quentin pour ce tour des pelouses hebdomadaires. On va maintenant se focaliser sur un match en particulier, en partenariat avec footpi.fr. Quel match avez-vous choisi ce week-end, Kevin ?
J'ai choisi le derby Grisol-Caz qui s'est joué vendredi soir.
Vous y étiez.
J'y étais. Ça a commencé déjà sous les trompes d'eau puisqu'il y avait de l'orage à Grisol. Et ces trompes d'eau ont un petit peu... les Grisolais se sont fait prendre à la gorge par Caz dès le début du match. Le coach de Grisol m'a dit que la pluie les avait sûrement un petit peu refroidis et empêchés un petit peu d'aller de l'avant. Donc,
Christophe Gutin, oui, le coach.
Ouais, Christophe Gutin. Voilà, donc comme on dit souvent, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et voilà, Grisol l'a fait, mais avec beaucoup de difficultés, puisque vraiment la première période a été pour Caz. 30 minutes vraiment... très intéressante pour les joueurs de Nicolas Morène, avec principalement cette ouverture du score à la 21e minute, qui est par leur avancante l'Ours. Voilà, c'est vraiment le fait de match sur cette première période. Ensuite, le temps s'est amélioré et bizarrement, Grisol est sorti un peu la tête de l'eau. la tête de l'eau et du coup a repris le chemin et a joué un peu plus haut. Tandis que Caz a énormément reculé sur le dernier quart d'heure. Mais à la mi-temps, toujours 1-0 pour Caz. Voilà. Au retour des vestiaires, ça a été très très vite, puisque Grisol a égalisé par Costamagna sur une passe en retrait de Corpal, qui a mystifié le gardien pour égaliser un partout. Caz est mal rentré dans cette seconde période et a subi plusieurs offensives et aurait pu subir un second but au bout de la sixième minute. Et comme en première période, le but a fait reculer Grisol, bizarrement. Et ça a reculé, beaucoup plus de duels au milieu du terrain, moins de jeux. Mais malgré tout, encore Costamagna qui double la mise à un quart d'heure de la fin. Il marque but sur but en ce moment, donc il est intraitable devant le but. Et donc 2-1, ça en continue à reculer du côté de Grisol. Caz aurait pu égaliser, mais... leur gardien Bernara, ça fait des exploits dans les dernières minutes. Et le troisième but est arrivé sur un contre, mais c'est un but vraiment anecdotique, arrive à la 94e minute. C'est dommage pour les joueurs de Caz qui avaient fait vraiment une très très belle première période. C'est comme ça. Grisol a été plus fort dans les moments. Important.
Alors justement, Kevin, on écoute Christophe Gutin, le coach de Grisol.
C'est un miracle que Caz n'est pas égalisé. Maintenant, notre gardien était présent une fois de plus. Ouais. Je pense qu'il faut lui rendre hommage. Et après, on est sur une série quand même pas mal, de 3 victoires et 1 nul. Donc on a encore 2 matchs à domicile. Je pense qu'il faut aborder ces matchs avec sérieux, jusqu'au bout, et finir dans la meilleure des dynamiques. Je pense qu'on a tout pour. On n'a pas de blessés, on a retrouvé notre effectif. Donc je pense que maintenant, il faut, prendre de la confiance et ça nous permet de nous exprimer jusqu'à la fin.
Du coup, cette victoire, comme dit Christophe Gutin, leur permet vraiment de respirer. Ils sont aujourd'hui juste derrière Montauban avec 20 points. Ils prennent 8 points d'avance sur leur adversaire du soir. Ça leur permet vraiment de prendre le large avec la dernière place qui sera relégable. Donc pour eux, ils ont 2 matchs à domicile. Il y aura encore des points à prendre.
Et on écoute maintenant la réaction de Nicolas Morin de Caz.
On ne va pas baisser les armes maintenant parce que je pense qu'on a encore largement les moyens d'aller chercher quelque chose si on continue à travailler et à être tous solidaires parce qu'on y arrivera. Je suis convaincu que les gars, si on arrive à mettre un contenu sur plus de minutes que ce qu'on a fait ce soir, je pense qu'on peut bousculer d'autres équipes. Et on peut créer créer quelques petites surprises, j'espère, d'ici la fin de saison.
Oui, Caz peut être frustré après cette défaite, puisque vraiment, ils ont montré de très belles choses en première période. J'étais allé les voir aussi en début de saison contre Porté. Ils avaient perdu 2-0, une équipe qui est aussi en haut du classement. Et ils avaient fait aussi de très belles choses. Donc, comme dit le coach Nicolas Morin, il ne faut pas qu'il lâche. Ils ont de quoi faire d'ici la fin de saison. Ils ont largement les moyens de se sauver dans cette régionale 2.
Et avec vous, Kevin, maintenant, on va faire un petit point sur le résultat dans le Tarn et Garonne.
Voilà, un petit point. Je sais que les clubs du Tarn et Garonne sont contents. Donc,
on est aussi là pour ça, Kevin. Voilà. On met en valeur un peu tout le football.
C'est ça. Donc, en excellence, puisque c'est la division phare dans le Tarn-et-Garonne, avec l'Avit qui est leader, mais qui depuis 2 matchs est un peu freiné, puisqu'ils ont été perdre la semaine dernière 2-1 à Montech. Et ils ont été faire 0-0 aux deux ponts. Donc rien d'alarmant pour l'instant, puisqu'ils sont vraiment en tête. Mais attention, puisque le Brulois pousse derrière. En excellence, à noter un changement d'entraîneur aussi en excellence, puisque à Négropolis, Eric Chapelle a été écarté. Pas forcément pour les résultats, mais plus pour quelque chose de personnel.
C'est des choses qui arrivent.
Ça arrive.
À tout niveau. Donc.
Voilà, mes infos me feraient dire que ça serait l'ancien entraîneur de Caussade, Stéphane Jacot, qui serait sur le point d'arriver à Négropolis.
À suivre,
à confirmer. Voilà. Dernier petit point sur la première division en Pool C, puisque Bourrette était leader incontesté à la trêve, avec 10 matchs, 10 victoires. Et ils viennent de faire 2 défaites et 1 nul. Et le Corbarieux a 3 matchs de retard et pourrait les dépasser d'ici quelques semaines.
Merci Kevin pour cet éclairage en partenariat avec la rédaction de footpi.fr. Il est 19h44, c'est l'heure de faire connaissance de notre invité David Quadri.
Bonsoir David Quadri, vous allez bien ?
Bonsoir, pour l'instant tout va bien, j'attends les questions.
Hein. On verra après. Il est un peu le tract. Il est un peu le tract.
Oui, j'ai l'impression. J'attends. Ça va bien quand même ?
Oui, tout va bien. Oui.
Alors on est parti. David, vous êtes donc né le 13 août 1976.
Jusque-là, c'est bon.
Première question, bam, qui c'est qui a remporté la Ligue 1 cette année ?
Ah, c'est vrai qu'il aimait nous faire ça. Alors, 79, je sais que c'est Strasbourg.
En 76.
C'est Saint-Etienne.
Je veux dire Saint-Etienne, parce que je suis supporter.
Exactement, c'est Saint-Etienne.
Ça peut être que Saint-Etienne, tous.
Bonne réponse. Vous êtes né à Montauban.
Oui. En quelle année Montauban a été champion de France ?
C'est pas la question.
De rugby ou de foot ?
En fait, c'est un vrai amour que vous avez avec cette ville, j'ai l'impression.
Exactement, j'habite Montauban. Et je suis né à Montauban et je bosse à Montauban.
Exactement. Mais cependant, vous la quittez cette ville pour Toulouse, pour y faire vos études à la fac du Mirail en histoire-géographie.
Exactement.
La petite question, c'est est-ce qu'il y avait déjà des blocus à cette époque-là dans cette fac ?
Exactement, ça c'est... Et de gros blocus.
Plus gros qu'aujourd'hui ?
Je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne suis pas revenu, mais il y avait exactement, oui. Ça, ils pouvaient bloquer une semaine entière. Hein.
Oh bah ici, ils font encore plus, je crois.
Ah, d'accord, entier, je pense. Ils sont encore plus forts.
Ouais. Ils sont encore plus forts maintenant. Et à la fin de vos études, vous faites un mémoire. Et là, accrochez-vous bien, les gars, sur ce mémoire. Il avait pour thème la société rurale à Verdun, sur Garonne, et dans son canton au 19e siècle. Ça t'inspire quoi, ça, Romain ?
Ça m'inspire rien du tout. du respect, ouais. David. Mais après, je pourrais pas vous dire autre chose.
C'était bien ça, hein. C'est ça, mémoire.
Exactement.
D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes donc professeur d'histoire-géographie, logiquement.
Pas que, mais en partie, oui. Entre autres, oui.
En gros,
parce que comme je travaille dans un CFA, on enseigne plusieurs matières.
Et alors, apparemment, vous avez aussi écrit des chansons.
J'ai écrit, oui, qui sont restées pour l'instant dans un placard pour l'instant.
Il aurait fallu nous les amener.
Est-ce qu'on aurait le droit à un live ?
Ah non, je ne chante pas.
Ah, vous ne chantez pas ?
Non, je ne fais qu'écrire.
C'est bien dommage.
J'essaye d'écrire.
En 2013, vous avez écrit votre premier ouvrage, Je t'ai trouvé, qui est un recueil de 3 nouvelles.
Exactement, oui.
Voilà. Et dernièrement, vous avez sorti une pièce de théâtre, Tribulation, dans un lycée. J'imagine que vous vous inspirez un petit peu de ce que vous vivez un petit peu tous les jours dans vos classes pour...
Alors, sur le premier, qui est du fantastique, non. Là, c'est de la pure imagination, sur Je t'ai trouvé. Mais effectivement, sur Tribulation d'un lycée, oui, l'inspiration, il ne m'en a pas manqué.
Ça, vous pouvez nous parler un petit peu de cette pièce ? Vous la jouez quand, en fait ?
Ah non, pour l'instant, elle est sortie qu'un livre.
Vous voilà. Allez la jouer ?
Si je trouve une troupe,
ouais.
J'ai jamais vraiment cherché, mais pourquoi pas.
Quentin, tu ne voudrais pas faire acteur par hasard ?
Il y a une belle équipe, là.
Il y a une belle équipe.
On pourrait, oui.
Combien d'acteurs il vous faut ?
Il faut 9 acteurs.
Ah, c'est un peu juste.
On va chercher.
Moi, je verrais bien Xavier, quand même.
C'est
pas
mal,
oui. Hein,
Xavier.
Ah, oui. Ouais.
Ça pourrait être pas mal. On essaiera. On fera un casting ?
On peut faire un casting, oui.
Voilà. David Quadri, vous êtes un petit peu un esprit sain dans un corps sain. On a vu que culturellement, vous touchez un petit peu à tout. Mais si vous êtes ici, c'est surtout parce que vous faites quelque chose dans le monde du football. Vous êtes entraîneur du Montauban Football Club Tarn-et-Garonne. Pour faire un lien avec votre carrière professionnelle, la question c'est, est-ce qu'on peut gérer une équipe de foot comme on gère une classe d'école ?
Non, c'est totalement différent. Les objectifs ne sont pas les mêmes.
C'est-à-dire ?
En classe, déjà, il y a un peu plus... on a, comment dire... Par rapport aux élèves, il y a une distance. Voilà. Une distance qui est beaucoup plus importante qu'avec les joueurs.
D'accord, vous êtes beaucoup plus proche de vos joueurs. En fait.
Oui, exactement. Ouais. Avec les joueurs, on partage beaucoup.
D'accord.
On partage même parfois leur vie privée.
Mm-hmm. Vous avez même rapport d'autorité ?
Là aussi, l'autorité va être différente.
D'accord.
Les exigences aussi sont différentes. Et je vous dis, au foot, on a des objectifs communs. Les élèves n'ont pas toujours d'objectifs.
Mm-hmm.
On essaie de leur en trouver, d'accord. Mais eux, ils ne s'en trouvent pas. Donc,
tous les joueurs ont un objectif, alors ?
Oui. D'accord. C'est un combat.
C'est un combat.
Oui. En classe, c'est un combat. Au d'accord. Foot, non, c'est un plaisir.
Très bien. Et par contre, vous avez succédé à David Trivino.
Oui.
Comment s'est déroulée cette succession ?
Très très bien, parce que David est un ami. J'entraînais donc l'équipe réserve et ça s'est fait naturellement. David m'a proposé, le président avait ça en tête. Et David m'avait préparé, il m'avait dit « si j'arrête, de toute façon, je veux que ce soit toi
mm-hmm. ».
Et donc ça s'est passé très bien et j'ai toujours eu des contacts avec David.
D'accord. Mais justement, on l'a contacté et voilà ce qu'il a répondu sur cette question. Ça va venir dans une petite seconde.
J'étais un peu déçu. À l'origine, on était en phase avec David pour préparer la saison prochaine. Enfin, cette saison-là, moi, je devais continuer à m'occuper de l'équipe première et je souhaitais absolument que David s'associe encore avec moi sur l'année qui venait. Et puis moi, j'ai, pour des raisons professionnelles, j'ai eu beaucoup de déplacements courts en mai. Je ne pouvais plus gérer le groupe et c'est pour ça que rapidement, j'ai prévenu les dirigeants que ce serait plus possible pour moi cette année et qu'il fallait essayer de continuer avec David.
Voilà ce qui répond à ce sujet.
Totalement d'accord.
D'accord. Pour l'instant, vous êtes cinquième de votre groupe, derrière Colomiers, Portet, Tournefeuille et Saint-Alban-aux-Canville. C'est quoi vos objectifs maintenant ?
Les trois premiers sont intouchables.
Ouais.
Le quatrième est à 2 points. Donc, on va essayer d'aller chercher cette quatrième place, l'objectif de fin de saison, même si je pense que ça ne suffira pas pour monter.
On le rappelle, la quatrième place peut vous permettre de monter en régional 1, puisque selon les résultats aussi national 3, selon les descentes, pour faire simple, le meilleur quatrième de R2
oui.
peut éventuellement monter en R1. C'est ça.
C'est ça. Mais le problème, c'est que les résultats sont pris sur les 5 premiers.
Oui,
comme les confrontations sur les 5 premiers. Et nous, pour l'instant, on a 0 point.
Ouais, donc, ça paraît,
donc c'est assez compliqué. Voilà.
Mais vous voulez chercher cette quatrième place pour ne pas avoir de regrets.
Aucun regret, oui. Et je pense que c'est notre place.
C'est un objectif qui est pour
oui, c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec les joueurs pour la fin de saison. Ouais. De finir quatrième. Pour montrer qu'on est... parce que le championnat, il est pratiquement à 3 vitesses, le championnat. Premier, deuxième, troisième, 4-5e, c'est-à-dire Saint-Alban et nous, et après, il y a un peu le reste. Ouais.
C'est Colomiers, Portet, Tournefeuille.
Oui, c'est ça. Ouais.
Quentin Marie.
David, vous êtes à 10 points, justement, de Tournefeuille qui complète le podium. Mais on voit que sur le terrain, vous êtes pas si loin, parce que les défaites ne sont que 1 ou 2 buts d'écart. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une forme de regret, en quelque sorte ?
Il nous manque, par moments, d'expérience. Dans les moments clés, si je prends le match à Tournefeuille, les deux matchs sont ressemblés aller-retour. Hein. Les deux matchs ont mené à 10 minutes de la fin, 1-0. Et sur un détail, sur un ballon contré, l'équipe d'expérience a réussi à faire basculer le match de son côté. Il nous manque un petit truc, ouais. Il nous manque quelque chose. Ouais.
Kevin.
Oui, vous avez fait un très beau parcours en Coupe de France.
Oui.
Est-ce que ça a joué de manière positive ou négative, ou même peut-être pas du tout, sur le championnat ?
Alors, ça a joué totalement de manière positive. Pourquoi ? Parce qu'on était dans une spirale assez négative en championnat. Ce qu'on peut regretter, c'est notre début de championnat, puisque sur les 5 premiers matchs, on a une seule victoire. Donc, on était relégable après 5 journées. Donc, on a eu depuis un très bon parcours et la Coupe de France nous a maintenus. Ça nous permettait un week-end, on perdait un championnat, mais derrière on regagnait en Coupe de France puisqu'on jouait tous les 15 jours. Donc on n'est jamais rentré dans un esprit négatif. Et la Coupe de France, non, nous a vraiment fait du bien.
On en avait parlé justement sur ce plateau avec Momo Boamama, qui était le coach de Tournefeuille, qui était sur ce plateau et qui nous disait justement que de jouer la Coupe de France et de gagner ces matchs, c'était plutôt positif parce que voilà, c'était vraiment ça permettait alors
de
pour Tournefeuille gagner donc oui. Voilà, mais vous, ça vous a vraiment permis de garder la tête en dehors de l'eau.
Oui, exactement. Oui, c'est ce que ça a fait. Oui, c'est toujours positif. De toute façon, la Coupe,
il faut la jouer.
Toujours, toutes les coupes.
Léo.
Quel regard vous portez sur votre équipe ?
Dans quel sens ? Le regard global ?
Oui.
C'est une équipe jeune, pleine d'avenir, qui doit, dans les moments clés, être peut-être plus soudée dans les moments clés et plus réaliste dans les deux surfaces.
D'accord.
On perd, je vous dis, chaque fois sur des petits détails, sur les matchs importants. Parce que, comme ça a été dit, on n'a jamais connu une défaite énorme. C'est souvent sur un but ou des matchs qu'on a même menés.
C'est dur, ça, pour un coach, de trouver la solution à ça ?
On essaye d'y travailler. Je pense que c'est aussi mentalement. Et on a fait énormément de progrès par rapport à ça depuis le début de saison, où on flanchait beaucoup mentalement. Ouais.
Léo ?
Vous vous en doutez, l'ancien entraîneur, donc David Trivino, suit toujours cette équipe et voilà ce qu'il en pense.
J'étais un peu déçu de ce qui s'est passé en début de saison, parce que un peu triste, voilà, quand le groupe a perdu les trois matchs d'affilée, et voilà, c'était un peu compliqué, et voilà, on avait discuté avec David, c'était important pour la dynamique de bien partir, et puis ben voilà, il y a eu cette défaite un peu contre le cours du jeu à Albi, et après les deux matchs d'entrée contre les deux grosses équipes qui ont fait mal au groupe. Voilà, mais après ils sont bien ressaisis, la coupe est passée par là, tout allait bien, mais la Coupe de France pompe pas mal de jus.
Vous êtes en accord avec ce qu'il dit ?
À part pour la Coupe de France, parce qu'on en a eu vraiment besoin cette année, on avait vraiment besoin de la Coupe de France. Oui, il a raison sur le mauvais départ. De toute façon, le mauvais départ, quand vous avez 4 défaites en 5 matchs, pour jouer une montée, c'est quand même compliqué. Mais la Coupe de France nous a permis vraiment de ne pas sombrer mentalement. Hein. On gagne. C'était important de gagner.
Et quelles sont vos méthodes de coaching ?
C'est vague.
C'est très vague.
Disons que je demande beaucoup de verticalité dans le jeu.
D'accord.
Je demande de la rigueur tactique. Mm-hmm. Là aussi, ça n'est pas toujours ancré dans la tête du joueur, donc c'est assez difficile. Mais là aussi, il y a énormément de progrès. Je demande de l'investissement. Mm-hmm. Beaucoup d'investissement. Déjà arrivé à l'heure, c'est un des premiers points. Hein. Et ce que je leur demande, c'est vraiment de ne pas tricher, de tout donner, parce que le staff donne tout et on essaye d'inculquer ça aux joueurs. Mais c'est une équipe vraiment d'avenir, parce que j'ai un groupe jeune et je crois beaucoup en ce groupe. Oui. S'ils continuent à travailler, à se perfectionner.
Est-ce que votre groupe qui est jeune a justement cette culture football ? Parce que vous parlez tout à l'heure de verticalité. Est-ce que c'est quelque chose qui leur parle à vos joueurs avant même mais avant, est-ce qu'avant votre discours, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà en tête ou est-ce que c'est...
Parfois, les jeunes ont tendance à jouer qu'à l'instinct. Et c'est vrai que c'est là notre rôle de coach, de cadrer, de leur amener le plus ce qui leur manque.
Quentin Marie.
David, on parle de groupe, justement. Il y a un point qui est quand même assez important, c'est que l'équipe réserve est en R3, soit un niveau en dessous de vous. En tant que coach de la première, c'est important aussi pour vous de ne pas avoir de fossé, finalement, avec l'équipe réserve, notamment quand il s'agit de surclasser des joueurs, peut-être.
Oui, c'est très important. Les groupes sont très liés. On n'oublie pas aussi l'équipe 3, qui est en promotion excellence, ou D2, je crois que ça va se nommer maintenant, prochainement. En tout cas, on essaie de garder une unité sur les trois groupes, même si le groupe 3 donc, est au niveau district. Mais le groupe 2, oui, fait partie totalement prenante et vraiment des questions avec les groupes 1, puisque j'en viens de toute façon du groupe 2 déjà.
Vous avez coaché l'année dernière.
Le groupe 2, et donc il n'est pas de côté du tout. Hein. Le groupe 2, d'ailleurs, est un peu moins bien ces derniers temps, et on en est malheureux aussi. On s'occupe, c'est le club en général. Hein. Voilà.
Et au début de saison, justement, quand on est dans cette configuration où l'équipe première n'a qu'un niveau, on va dire, d'avance, entre guillemets, sur l'équipe réserve, est-ce qu'il n'y a pas une pression supplémentaire, notamment vous parlez du début de saison raté, parce que pour le coup, par exemple, si l'équipe réserve fait un super parcours, mais que l'équipe première descend, elle l'oblige forcément, l'équipe réserve, à descendre d'un rang aussi, donc est-ce qu'il n'y a pas une forme de pression supplémentaire quand c'est comme ça ?
Non, pas de pression supplémentaire, mais c'est vrai que le début de saison qui était raté pour nous était super réussi pour l'équipe 2, puisqu'elle a été longtemps sur le podium. Elle était même à un moment donné première. Non, on n'avait pas de pression parce que j'ai jamais eu peur par rapport au maintien, à aucun moment. C'est juste qu'on voyait le wagon de tête partir et on se disait, va être compliqué de le rattraper. Mais à aucun moment, non, par rapport au maintien, on a eu des doutes. Parce qu'on savait qu'on avait la capacité vraiment de rebondir. Le problème, c'est qu'on a pris du retard pour vraiment aller titiller les meilleurs.
Léo Moulinier.
Et donc avec nous, il y a un invité mystère, vous allez essayer de le reconnaître, et d'ailleurs sur Twitter, si vous le reconnaissez, un hashtag OxyFoot, vous nous dites, l'invité mystère est là ? On n'entend pas l'invité mystère. Il est très mystérieux cet invité.
Très mystérieux.
Allô, invité mystère ?
Non. Oui, allô ?
Oui, allô, invité mystère, vous êtes là.
Je suis Mekchou Chidjir.
Oui, voilà, l'invité mystère vient de nous dévoiler son identité.
Alors qui est-ce ?
Qui est-ce donc ?
Qui est-ce ? C'est mon vice-capitaine.
Exactement. Allô, Idir ?
Oui.
Oui, comment ça va ?
Oui, ça va très bien.
Ça va très bien. Donc, on voulait savoir ce que vous pensiez, vous, des méthodes de coaching de votre entraîneur.
C'est très, très piège, cette question.
C'est très piège. Hein.
Fais attention, c'est pas demain soir.
Non, mais après, ouais, c'est... Comment dire ? On va dire que c'est un entraîneur que quand il dit quelque chose, il le fait. Et ça, c'est quelque chose de très rare. Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui parlent, mais voilà. Donc là, quand je dis ça, c'est par exemple dans le fait que le groupe, il est ouvert pour tous les joueurs. Et quand il le dit, c'est vrai. Car il y a eu beaucoup de joueurs qui ont joué. Et comment dire, par exemple, il arrive que quelques joueurs qui ont eu des trous et ils ont été, on va pas dire sanctionnés, mais voilà, ils ont été sur le banc ont été faire un tour en deux, chose que beaucoup d'entraîneurs ne font pas. Ils n'ont pas le courage de faire, et lui, il a eu le courage de le faire, donc il fait de cadeaux à personne, et voilà.
David, ça fait quoi d'entendre...
C'est une concurrence saine.
Ça fait quoi, David, d'entendre ces joueurs parler comme ça de vous ?
Ça veut dire qu'ils ont compris totalement qui je suis et qu'ils sont d'accord aussi sur ce qui est fait. Mmh. Et je trouve que oui, ça fait du bien de l'entendre. Oui, ça fait du bien, ça fait plaisir de l'entendre. Mais c'est bien ouais, aussi qu'ils comprennent ce qui est voulu. Et il a raison en disant que le groupe est ouvert, parce que je crois que j'ai utilisé 27 ou 28 joueurs hein, en équipe 1. Hein. Mmh. Donc j'ai essayé de. Bon, coupe comprise, mais j'ai essayé de laisser la chance d'ouvrir un peu à tout le monde. Oui, en termes de sanctions aussi.
Vous êtes plutôt sévère.
Ouvert à tout le monde.
Et dire, est-ce que c'est un coach plutôt sévère?
Sévère, il est sévère quand il faut l'être. Après, c'est plus un coach qui est proche de ses joueurs, qui parle. Il est ouvert aux discussions, tout ça. Après, quand il faut être sévère, il est, mais de base. Il fait plus confiance aux joueurs et donc non, pas trop sévère. Il a confiance aux joueurs et voilà. Mais après, si les joueurs jouent la carotte, eh bien, c'est sévère.
Moi, je vais inverser la question. Idir, je vais la poser à David. En quoi Idir est un bon capitaine?
Alors, Idir, il s'est affirmé totalement cette saison en défense centrale. Idir a un gros potentiel. C'est le vice-capitaine exactement, puisque c'est Alex Davila le capitaine. D'accord. L'ancien avec Samir Boudara, mais comme je l'appelle, c'est capitaine futur, un peu comme De Rossi l'était annoncé à la Rome.
C'est votre choix?
Oui, c'est mon choix. Ouais, c'est un des hommes de base de l'équipe, c'est un défenseur très solide, très bon sur l'homme, qui a une influence et qui est grandissante dans le groupe. Et c'est un des joueurs dont je compte vraiment dans l'avenir m'appuyer.
Bon, il dit, ça va les chevilles là?
Non, ça va, ça va.
Idir, avant de te faire partir, une dernière question. C'est quoi les objectifs pour toi de la fin de saison maintenant?
C'est de gagner finir sur une bonne note et c'est d'accrocher la quatrième place. Et vraiment de finir sur une bonne note. Et voilà, même après, c'est compliqué car les trois premiers sont loin. Ce qui est dommage. Avec l'équipe qu'on a, le potentiel, c'est vraiment dommage. On aurait pu, avec un peu plus de réussite, je pense qu'on aurait pu, y être. Mais bon, là, c'est de s'accrocher, finir la saison en beauté et finir quatrième.
Exactement les mêmes objectifs que David Quadri, en fait.
Vous êtes de la même équipe.
C'est ça.
Merci beaucoup, Idir Mekchouch.
Merci beaucoup, Idir.
Merci, au revoir.
À demain soir.
À demain soir, vous reprenez l'entraînement avec lui demain?
Oui, c'est ça.
Exactement.
Oui.
On va finir cette interview maintenant et pour ça, je vais vous donner des noms de certains de vos joueurs. À chaque nom, il faudrait un mot pour les qualifier.
C'est dur, ça. Hein,
ça, c'est dur, mais j'aime bien faire ça.
Ouais, je t'ai pas préparé.
Pas préparé?
C'est tant mieux.
Ah oui, tant mieux.
Pas spontané.
Comme ça, exactement. Si je vous dis Tristan Hugo. Hugon.
Tristan Hugo. Non, Hugon. C'est Clément Tristan ou Jean Hugon, comme vous voulez.
Hugon,
ça c'est Jean Hugon. Snap.
Snap, il snap tout.
Il snap tout.
C'est le snapper fou.
C'est ça.
Tristan.
C'est mon gardien de but.
C'est important.
Décisif. Décisif.
Robert.
Le gaucher. Jordan, c'est le gaucher. Une patte gauche extraordinaire.
Feltin.
Ah, lui, c'est le guerrier.
Mekchouch, qu'on vient d'avoir.
C'est l'avenir.
André.
C'est le joueur, comment dire, indispensable, c'est peut-être fort, mais c'est la sentinelle en fait, de l'équipe. Donc ce rôle-là qui est important. Ouais.
Jamal Ouali.
C'est la technique.
Boudara.
Expérience.
Davila.
Expérience bis et buteur.
J'espère que je le dis bien. El Kaouki.
El Kouaki, c'est un buteur aussi, c'est le buteur.
Bonnet.
Nico Bonnet, c'est le meneur.
Majoud.
C'est le bout en train.
Saoudi.
Saoudi, c'est le foufoulé.
Kera,
c'est le joker.
Sebelou.
Une perle.
Voilà pour l'interview. Merci David Quadri d'avoir répondu à mes questions. Tout de suite, c'est Quentin avec le tac au tac.
David,
oui.
Bon, des questions un petit peu plus légères si je vous demande Barça ou Real.
Allez, je vais dire Real.
OM ou PSG?
PSG.
Bayern ou Dortmund?
Dortmund.
Andrés Iniesta ou Andrea Pirlo?
Pirlo.
Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo?
Les deux.
Joker, donc, il n'y en a qu'un.
Ah, il n'y avait qu'un. Il y a un Joker.
Il n'y a qu'un Joker.
C'est pas un Joker, les deux. Je ne me défile pas.
C'est une bonne réponse.
Moi, les deux. Bon.
Allez, ouais, pour celle-là, on l'a. D'accord. Oui. D'accord. Deux légendes, je suis d'accord. Gianluigi Buffon ou Iker Casillas?
Buffon.
Pep Guardiola ou José Mourinho?
Guardiola.
Didier Deschamps ou Zinedine Zidane?
Ah, c'est difficile, là. Je sais pas trop, là. Ouais, je veux dire Deschamps, mais je sais pas.
C'est qui le meilleur coach de Ligue 1?
Le meilleur coach de Ligue 1, Ranieri.
Rugby ou hand?
Hand.
Tennis ou basket?
Tennis.
Pain au chocolat ou chocolatine?
Chocolatine.
Whisky ou vodka?
Je bois pas d'alcool.
Bonne réponse. La très très bonne répartie. Italie ou Espagne?
Italie.
États-Unis ou Australie?
États-Unis.
La vidéo dans le foot, oui ou non?
À petite dose. Oui, à petite dose.
La France, elle peut la gagner, cette Coupe du Monde?
Oui, totalement, oui.
Karim Benzema, il doit être pris en équipe de France?
Joker. Je ne l'avais pas utilisé. Non, c'est à Didier Deschamps la réponse, c'est pas à moi.
Montauban de retour en top 14 cette saison?
Oh, c'est fort possible, oui.
Et Saint-Etienne en Coupe d'Europe, la remontada, on y croit?
Totalement, sixième.
Bon, très bien. Merci, David.
Avec plaisir.
Merci, David. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose pendant le quiz de Quentin. C'est que dès qu'il y a une question sur un Italien, c'est lui que vous prenez.
Les origines.
Ah, vous êtes
oui. Alors apparemment, vous êtes fan de Totti.
De Francesco Totti, oui.
Et donc de la Roma. Si on vous aurait dit Lazio ou Roma.
Ah oui, c'est pour ça au début, je voulais dire, quand il m'a dit Real ou Barça, je voulais dire Roma. Je dis non, peut-être qu'il l'a gardé pour plus tard.
Alors d'où vous vient cette passion pour l'AS Roma?
Francesco Totti, De Rossi, ces joueurs-là qui sont emblématiques, encore plus Francesco Totti, oui.
Et vous pensez qu'ils peuvent passer face à FC Barcelone?
Malheureusement, non.
Aucune chance?
Moi, je crois qu'elles sont vraiment minimes, les chances. Le Barça est vraiment supérieur.
C'est impossible.
En football, rien n'est impossible en football. Mais malheureusement, je vais y croire, hein, parce que je crois encore qu'on va monter en Régional 1, hein, même si les chances sont minimes. Hein. Mais je pense que ça va être très, très compliqué.
Quentin?
Vous avez Rudy Garcia qui est passé, vous dites PSG?
Je dis PSG parce que j'ai... C'est difficile aussi à cette question. Je suis vraiment stéphanois, moi. Donc, je dirais, oui, PSG, surtout sur les années... le PSG m'est resté les années Canal+. Voilà, c'est ça, ouais. Ce PSG-là qui m'est un peu resté. Alors que l'OM, j'ai jamais vraiment été pro-marseillais.
Alors, justement, Quentin, vous parliez de Rudy Garcia. À la Roma, il a donc coaché. Et déjà, à la Roma, il avait du mal à battre les grosses
exactement,
équipes.
Exactement, oui. Pourtant, il a fait...
Ils ont fait deux fois deuxième, oui.
Oui, deux fois deuxième. Quand il est parti un peu après la trêve, il était cinquième, ce qui n'était pas catastrophique. Mais effectivement, il a du mal. Alors, sûrement en première ligne, parce que c'est ses équipes, mais donc c'est lui le coach, oui, à battre ses équipes de haut de tableau. Et ça avait été pareil en Ligue des Champions avec le Roma. Hein.
Oui, bien sûr.
Il avait eu, je crois, c'était Manchester, ça avait été désastreux même.
Ouais, ils avaient pris
7 buts. Hein.
Ouais, ils en avaient pris une sacrée à Old Trafford. Ouais. Et vous avez dit Ranieri, toujours
Oui, Ranieri, parce que j'allais dire Galtier, mais il est plus à Saint-Etienne, c'est pour ça.
Oui, puis là, à Lille,
ouais, donc c'est difficile. Après, non, il y a Jardine, j'ai dit Ranieri parce que c'est le premier qui m'est venu, mais il y a d'autres excellents entraîneurs, bien sûr.
Et du coup, Ranieri à la tête de l'Italie, ça vous intéresserait?
Je préférerais le retour de Conte, quand même.
Pour moi, on ne sait toujours pas, mais Ranieri,
ce serait écarté. Oui, ouais. Il y aurait trois noms, Mancini, Conte et Ancelotti, oui, c'est ça, exactement.
Mais Mancini aussi, peut-être, mais je crois qu'ils n'en veulent pas trop, lui aimerait bien. Mais...
Oui, après, mais je pense que même pour le choix, c'est plutôt Conte ou Ancelotti, oui.
Vous pensez que la Squadra Azzurra peut se refaire après cette non-qualification?
Oui, elle se refera, oui. Elle se refera, on va attendre la nouvelle génération et on va attendre notamment les matchs amicaux avec cette nouvelle génération.
Avec Buffon toujours?
Et avec toujours Buffon.
Ça vous plaît, ça?
En guide, oui. Oui, c'est la classe Buffon, oui. C'est le guide.
Il jouera toujours.
Je pense qu'il va être là plus dans un rôle pour accompagner.
Kevin?
Et le retour de Balotelli? Parce qu'à Nice, il est plutôt pas mal, même si des fois, il ne court pas beaucoup, mais il plante quand même.
Balotelli est un joueur fantasque, c'est-à-dire qu'il est capable de faire gagner un match et il est capable, pendant deux matchs, d'être un fantôme. Donc, c'est toujours difficile, même s'il a fait des progrès dans le comportement. Dans un groupe, je ne sais pas. Je ne le côtoie pas au quotidien, donc c'est toujours difficile de juger. Mais il pourrait avoir une nouvelle chance, oui, il pourrait. Je pense que, d'ailleurs, c'est dans la tête du sélectionneur. Parce que ça pourrait être Di Baggio, hein, qui est un meilleur, qui est un poste qui pourrait rester. Hein.
Oui, s'il suffit qu'il fasse de bons résultats. Oui, ça, c'était déjà vu. Entraîneurs, surtout les sélectionneurs intérimaires, et rester en place. Merci David, merci à Léo et Quentin pour toutes ces questions. Et tout de suite, on écoute Amen Omen de Ben Harper.
What started as a whisper slowly turned into a scream. Searching for an answer where the question is unseen. I don't know where you came from, and I don't know where you've gone. Old friends become old strangers between darkness and the dawn. Amen, omen, will I see your face again? Amen, omen, can I find a place within to live my life? You, I still hear you saying all of life it is chance and his sweetest, his sweetest when at a glance. A hundred lifetimes in a day, but I die a little in every breath that I take. Amen, omen, when I see your face again. Your face again.
On est de retour sur Occitanie Première. On vient d'écouter Ben Harper, une musique choisie par notre invité David Quadri. Alors pourquoi cette chanson ?
Parce que j'aime beaucoup cet artiste. Hein. C'est peut-être un des meilleurs artistes américains, même mondial. J'ai eu la chance de voir plusieurs fois en concert et j'aime ce qu'il fait. Ouais.
Très bien. Vraiment. Quentin ?
Oui, David, on en parlait un petit peu en off au niveau de la Serie A. Il y a un duel à distance entre la Juve et Naples. Est-ce que c'est l'année de Naples, enfin, même s'ils n'ont plus leur destin entre les mains, mais on sent qu'avec ce qu'ils ont fait, notamment en Coupe d'Europe, ils ont vraiment envie de remporter la Serie A.
Oui, malheureusement, ils ont laissé la Ligue Europa de côté. Ça, c'est
et la Ligue des Champions, déjà.
Et peut-être, oui, sur les deux derniers matchs, effectivement, aussi la Ligue des Champions. Ils veulent absolument le titre. Je pense que ce serait bien pour renouveler. J'ai rien contre la Juve, hein. Mais c'est pour renouveler un petit peu. Ça ferait vraiment, ça fait du bien. Hein. C'est comme nous, Paris qui est champion, qui va être encore champion. C'est vrai que l'année dernière, Monaco a mené de la fraîcheur. Ça change un petit peu. C'est peut-être l'année pour Naples, oui, même si je les trouve moins bien depuis quelques temps. Ouais.
C'est dur avec Sarri, c'est très physique et le moindre pépin.
Exactement. Ouais. Ils n'ont pas un banc en plus exceptionnel. En quantité, en qualité. En plus, il y a Goulam qui s'est blessé, qui ça leur fait défaut. Et hier soir, Hamzik.
Un ancien Stéphanois, d'ailleurs.
Oui, exactement. Oui. Et Hamzik, hier soir, s'est blessé.
Et Hamzik n'est pas du tout un ancien Stéphanois.
Non.
Messieurs, il est 20h15 et c'est l'heure du quiz. Je vous rappelle les règles, messieurs. 10 questions, 1 point par bonne réponse. Et ce soir, nous allons jouer en équipe. Kevin va jouer avec notre invité David et Quentin fera équipe avec Léo. Pour répondre, David, il suffit de me donner votre prénom pour prendre la main. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ?
Prêt.
Tout le monde est prêt. Allez, c'est parti avec la première question. Mais justement, ça va être peut-être facile pour vous. Qu'a réalisé...
C'est-à-dire vous.
Pour ceux qui suivent le championnat italien.
Parce que déjà, c'est une question... on part avec un inconvénient.
Non, parce que je pense que Quentin regarde aussi le championnat italien.
Peut-être moins que celui qui est à ma droite, mais j'essaye de suivre un peu.
Alors, je vous rappelle, il me faut votre prénom pour donner la réponse. Qu'a réalisé Mauro Icardi ce week-end ? Ouais, comme quoi, c'est pas forcément...
Ok, je me tais.
Je peux ?
Quentin, on t'écoute, on vous écoute.
Un joli quadruplé.
Un joli quadruplé. C'est vrai qu'il était beau.
C'était pas ça, là je crois. C'était le 100e but qu'il attendait qu'on me réponde ça.
Alors, mais justement, il n'y a pas eu que 100e but. Combien il en a marqué
103.
En tout, David ?
Ça, c'était le 100e en Serie A.
Ah oui,
en tout cas.
Mais il en a marqué un autre, du coup. Donc, ça fait 101. L'attaquant argentin de l'Inter a signé un quadruplé portant son nombre de buts en Serie A. À 101, Kevin.
Une anecdote, Kevin. À savoir qu'il a marqué le 100e sur la première période et il a changé ses chaussures à la mi-temps avec une paire de chaussures. Il avait marqué 100 sur sa paire de crampons.
Donc du coup, il va changer à chaque fois qu'il a marqué un but.
Je ne sais pas, mais il avait dû prévoir le coup. Du coup,
financièrement, il peut se le permettre.
Il est rentré en seconde période avec une nouvelle paire de chaussures pour son 100e but.
Très bonne anecdote de Kevin qui vaut 0 point.
Dommage.
Donc c'est Léo et Quentin qui mènent. Deuxième question. Justement, un autre joueur a marqué 4 buts ce week-end, c'est Mohamed Salah. J'allais pas vous poser quand même cette question, c'est assez facile, Quentin, je vois, vous me regardez.
Je vois, il va y avoir un petit chiffre qui
Alors,
va...
c'est une première en Angleterre depuis 2009 et le quadruplé de... Bah, de qui, justement ?
Quentin ? Fernando Torres ?
Absolument pas. Donc, un joueur a marqué 4 buts en 2009... En première ligue, c'est le dernier à avoir fait un quadruplé jusqu'à ce que Mohamed Salah, le joueur de Liverpool, marque un but ce week-end.
Léo Rooney ?
Non. Alors c'était un joueur d'Arsenal.
Quentin, Robin Van Persie ?
Absolument pas. Ouais, il faut Kevin, David, ouais. Là un peu.
Bon, je vais tenter Thierry Henry ?
Non. Bon, en 2009, je ne crois pas qu'il était encore à Arsenal.
Ouais. Ouais. Peut-être même, ouais.
Kevin, ça serait.
Alors, c'était face à Liverpool.
Déjà, en plus.
Un match légendaire. Je vais vous donner le score, 4 partout. Vous vous rappelez pas de ce match ?
C'était pas Walcott ?
Non.
Non.
C'était un joueur russe.
Quentin.
Ah oui.
Arshavin.
Eh oui, André Arshavin. Là, c'était le...
La passe décisive.
La passe décisive. C'est André Arshavin, donc, qui a inscrit un quadruplé avec Arsenal en avril 2009, donc face à Liverpool dans un match
de légende qui s'est terminé sur le score de 4 partout. Bon, malheureusement,
après quoi, Archavine n'a plus rien fait après. Hein.
Bah, je crois qu'il a eu deux moments de gloire, ouais. L'Euro 2008 où il a été extraordinaire.
Vous voulez une anecdote à zéro point ?
Allez, Kevin.
Aujourd'hui, grâce à ce quadruplé de Salah, il y a un forfait qui a été fait pour justement, dès qu'il marquera un but, il y aura une réduction pour ceux qui ont pris le forfait, des minutes gratuites dès qu'il marquera un but.
Forfait téléphonique ?
Ouais.
D'accord, mais très bonne anecdote à 0 points. Donc
c'est
grave, 2-0 pour Léo et Quentin face à Kevin et David. Alors on va se faire un petit qui suis-je. Si j'arrive à le dire, c'est mieux. Qui suis-je? Alors je suis né le 12 août 1990. Je débute en région parisienne après avoir joué en équipe de France de futsal. Avant d'être
Quentin. Oui, Sam Ben Yedder.
Avant d'être repéré par un club professionnel, je marque 63 buts en Ligue 1 avant de rejoindre l'Espagne où je remplace Kevin Gamero. Je me suis fait remarquer cette semaine en marquant un doublé dans le Théâtre des Rêves et en étant sélectionné pour la première fois en équipe de France. Je suis, bonne réponse de Quentin, Wissam Ben Yedder.
Est-ce qu'on a une anecdote à 0 points ?
Non, là j'en ai pas plus dommage. Que ça. Mais...
Oh, c'était déjà pas mal, moi j'en ai une. Il a été sélectionné donc en équipe de France de futsal et en équipe de France de football à 11. Je suis pas sûr que ce soit dû arriver souvent. Je pense que en France,
en tout cas, ça doit être le seul.
Oui.
Donc Quentin mène 3
oui,
3
seul,
réponses,
oui.
3 points.
Avec Léo toujours.
Avec Léo, Léo est là, mais Léo est le premier supporter de Quentin.
Ah oui.
Alors quatrième question, messieurs, parmi les 24 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, quel est le joueur qui a disputé le plus de minutes avec son club?
Léo.
Kevin.
Mbappé.
Non. Kevin.
Lloris.
Non. Alors, je suis pas sûr que ça va vous aider.
Kevin.
Il a joué, oui, Kevin.
Kanté.
Non. Il a joué 3403 minutes avec son club. Ça, c'est de l'indice, là. Normalement, ça doit faire tilt de suite.
Tout de suite.
3403. Et c'était avant Souken, en plus. Donc, il a joué 3493 minutes, exactement.
Donc il a joué l'intégralité de la rencontre.
Il a joué l'intégralité de la rencontre. Kevin. Et je vais vous aider, Kevin.
Raphaël Varane.
Non, c'est un joueur de l'OM, donc ce n'est pas Raphaël Varane. L'OM. De l'OM, l'Olympique de Marseille, l'OM. Je ne sais pas si vous connaissez.
Florian Thauvin. Ouais, Kevin, oui. Florian Thauvin.
Non, ce n'est pas Florent Thauvin. Florent Thauvin est troisième.
Ah, Quentin, Steve Mandanda.
Eh oui, messieurs, c'est facile. C'est facile, le gardien de l'équipe de France.
Qui a été absolument colossal hier soir.
Exactement. Donc il devance Alphonse Areola et Florent Thauvin. Et c'est Ousmane Dembélé qui a joué le moins avec son club avec 637 minutes avant le match de ce week-end. Messieurs, il y a déjà 4-0. Donc si Quentin et Léo répondent juste à une question, le quiz sera déjà terminé.
Pour y avoir égalité.
Pour y avoir égalité, c'est vrai. Alors maintenant, je vais vous poser une autre question sur Marcos Alonso. Marcos Alonso a été appelé par... Lopetegui, Quentin, je crois qu'il l'a, pour affronter l'Allemagne et l'Argentine. Alors, c'est une première pour le joueur de Chelsea. Et s'il joue, il rentrera dans l'histoire. Mais pour quelle raison?
Quentin.
Ah, il a,
parce
il
que
a.
Son père et son grand-père ont été sélectionnés.
Il est fort.
Il est fort.
Il est super fort.
Il anticipe.
Il est fort. Kevin, vous le saviez, ça?
Non, c'est
ça, c'est une sacrée anecdote.
Ah ouais, c'est vrai.
Marcos Alonso va imiter son père et son grand-père qui ont tous deux porté le maillot de la Roja. Je le dis bien?
De la Roja.
Roja.
Voilà.
Son grand-père a été sélectionné 2 fois et son père 22 fois. Vous avez des exemples comme ça de joueurs qui ont joué
y a
je crois
eu
qu'il y a Weiss qui a joué.
Père et fils, oui, Djorkaeff.
Djorkaeff, Maldini.
Maldini aussi, ouais.
Mais grand-père, alors il y a la famille Noah, mais là c'est pas.
Après, il y a
c'est fort aussi.
Hein. C'est fort aussi, dans trois sports différents.
Il y avait eu Gudjonsson qui avait remplacé son père.
Ouais, c'est vrai que ça c'est.
Voilà, lors d'un match international,
ouais,
le père sort et le fils rentre. Là, c'est aussi assez rare. Mais...
Ouais, je pense que Paolo Maldini aurait pu jouer avec son père aussi. Peut-être pas en équipe d'Italie, mais...
En tout cas, il a entraîné.
Et en tout cas, il a entraîné. Césarie. Ouais. Ça fait 5-0.
Enfin, donc... Faut savoir quand même que Quentin, il travaille chez Wikipédia, donc après, c'est normal. Alors,
Wikipédia n'est pas toujours une source sûre. Hein.
C'est rarement une source sûre. On se rappelle tous, messieurs, de Paul Le Poulpe, le pronostiqueur hors pair lors de la Coupe du Monde.
Il l'a aussi.
2010.
Ce que je sais, ça j'aurais pas le...
Mais savez-vous quel animal aura ce rôle pour la Coupe du Monde en Russie?
Je l'ai vu passer la semaine dernière.
Je crois que vous l'avez tous là.
Je l'ai vu passer aussi. C'est
Léo,
pas...
faut aider Quentin là, hein, il galère. Non,
je l'ai pas vu.
Je l'ai vu passer, mais c'était la semaine dernière que je l'ai vu passer.
Au hasard,
Kevin.
Vas-y, Kevin.
Kevin. C'est pas un furet.
Non, ce n'est pas un furet.
C'est pas un truc comme ça. Je l'ai vu aussi, je l'ai vu.
Si je vous donne le prénom de l'animal, ça va peut-être vous aider. Achille. Bon, ça aide pas.
Achille.
Ça.
Un chat, peut-être.
C'est incroyable. Même quand il ne sait pas,
c'est vrai,
il le sait. Même quand il ne sait pas, il le sait. Alors, c'est Achille, le chat, qui avait déjà... comment ?
C'est pas un chat aveugle ou...
Or, si, ouais, exactement. Ouais. C'est un chat aveugle. Mmh. Il avait déjà officié dans la Coupe des Confédérations et avec succès, puisqu'il avait donné la victoire de l'Allemagne, pronostiqué la victoire de l'Allemagne. Et sachez qu'il disposera d'un passe-fan durant toute la compétition. Donc, il pourra se balader un peu partout. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit... On l'invitera sur le plateau d'Oxyfoot.
Peut-être qu'il répondra à nos questions.
Ouais, peut-être, on verra. On verra. Donc ça fait 6-0 là, messieurs.
Ouais. Premier set.
C'est dur. Hein. Premier set, ouais. Voilà. Allez, nouvelle question. La septième. Quel entraîneur de Ligue 1 a dit ce week-end ? Alors là, c'est pour vous, David. S'il faut tout changer, on va tout changer lundi. Je m'en fous.
31.
Il est super fort.
Ah, il est trop fort.
Vous pouvez pas il est imbattable.
Je pense que vous allez reprendre la présentation du quiz pour vous éliminer parce que là, ou alors les questions sont trop simples, je ne sais pas.
Ce ne serait pas M. Poyet de Bordeaux ?
Et si, bien sûr, c'est Gustavo Poyet, très mécontent après la défaite de Bordeaux face à Rennes. Et sachez qu'aujourd'hui, il s'est séparé de son entraîneur adjoint et de son entraîneur des gardiens. Est-ce que c'est important, David, la cohésion
Ah, totalement, le staff il doit travailler ensemble, en harmonie, totalement. Il doit beaucoup parler aussi, échanger, c'est capital.
Vous écoutez, c'est toujours vous qui prenez la décision, mais vous écoutez toujours...
Oui, j'écoute mes deux adjoints, en fait, ouais, toujours. On en discute toujours sur des choix, parce que je peux avoir des hésitations, et je prends toujours leur avis.
Très bien. En tout cas, nous, on prend l'avis de Quentin, et ça fait déjà 7-0.
Faire un autre jeu sur un plateau télé, on sait qui prendrait.
Ouais, exactement. Bon, Quentin, vous avez tenté le 10 sur 10 là maintenant. Il faut que ce soit l'objectif de fin d'émission. Et alors, justement, on parlait de Gustavo Poyet. L'Uruguayen parle très bien le français puisqu'il a joué en France. Mais dans quel club, messieurs ?
Grenoble, David.
Ben voilà.
Enfin. Série à une fois.
Donc, David, Grenoble ?
Oui.
C'est une bonne réponse de. David, le coach bordelais est arrivé en Europe à Grenoble en 88 et il reste deux saisons dans l'Isère. Vous vous rappelez du joueur Gustavo Poyet ?
À Grenoble, il n'a pas laissé un grand souvenir et pourtant après, il a complètement explosé.
À Chelsea.
Ouais,
il a une très une anecdote à 0 point. On va les compter peut-être les anecdotes.
Je me posais la question parce que je crois que le papa de Mkhitaryan qui est aujourd'hui à Arsenal a joué à Grenoble, non ?
Il a joué. Je sais que Mkhitaryan parle très bien français parce que
le papa,
son père
a joué.
Je crois que c'était Sochaux, mais.
On vérifie.
Mais il a joué, c'est sûr, et certain, il a joué.
Ah, ça, par contre, je peux pas vous dire, je suis désolé.
Question de génération, je pense.
Je crois que c'est à Grenoble qu'il a joué le papa de Mkhitaryan.
Ils ont peut-être joué ensemble alors. Mkhitaryan, peut-être. Ouais, c'est à vérifier. Je crois que Léo va vérifier. En attendant, je vais vous poser la 9e question. Ce week-end ont eu lieu les quarts de finale de la Cup en Angleterre. Pouvez-vous me donner le meilleur buteur de cette compétition, messieurs ? Je peux vous dire déjà qu'il ne marquera plus.
Donc il a été éliminé.
Ah, bien joué.
Il a été éliminé. Donc, Kevin ?
Oui.
Je dirais Agüero ?
Non.
Non.
Il a joué ce week-end.
Quentin ?
Joué ce week-end.
Jamie Vardy ?
Non. Ça aurait pu, mais ce n'est pas lui.
Qui c'est qui reste ?
Oh, c'était une star de l'Euro 2016, messieurs.
Quentin ? Will Griggs ?
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Là, Quentin est beaucoup... Il est on fire, Quentin Marais, ce soir. Et oui, Will Griggs était on fire donc, dans cette compétition, puisqu'il a marqué 7 fois en 8 matchs. Donc, comme je vous l'ai dit, malheureusement, l'aventure de Wigan s'arrête en quart de finale. Le club de Détroit a été battu par Southampton. Tottenham, Manchester et Chelsea sont aussi qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre. Et dernière question.
Juste, Romain, on parlait de Mkhitaryan tout à l'heure. Son père, Hamlet Mkhitaryan, a joué... à Valence de 89 à 94 et à Arata ici de 94 à 95.
D'accord. Oui, et je crois qu'il a grandi en France et c'est pour ça qu'il parle très bien français.
Ouais, mais
voilà, malheureusement, on est passé en France, on est passé à côté de lui.
C'est ça.
Dernière question, messieurs. Qui est Tati Alcantara ?
Est-ce que vous pouvez répéter la question ?
Dernière question, messieurs. Qui est Tati Alcantara ? Elle a fait l'actualité.
Elle
a fait l'actualité. C'est assez récent. Hein.
Ah oui, est-ce que c'est Quentin? C'est pas la femme d'un Lyonnais? Si, c'est la femme,
c'est
de...
La femme de qui?
Marcelo.
L'eau.
Marcelo, qui s'est immiscé dans les bagarres d'après-match.
Sur Instagram, voilà. Tati Alcantara, qui est donc la femme du Lyonnais Marcelo, comme l'a très bien dit Quentin. Et cette dernière a insulté Adil Rami de pleureuse, avant de rajouter « Marseille, merci beaucoup, au revoir ». On en rigole, mais c'est assez désastreux ce qui s'est passé hier.
C'est pas une belle image.
Juste par exemple, juste pour une petite question par rapport à ça, David, un de vos joueurs, par exemple, célèbre comme Fekir l'a fait, un but en enlevant son maillot. Est-ce que vous seriez du genre à lui pousser une gueulante, par exemple, ou non, ça fait partie du jeu pour vous?
On en parlerait quand même.
Ouais.
Ouais, on en parlerait.
Ça vous gêne? Le chambrage finalement fait partie du football, surtout que Marseille avait chambré avant. Moi, ça me gêne pas. La réaction de Marcelo me gêne pas. Par contre, après qu'il y ait des coups,
c'est derrière. C'est ce qui se passe derrière, en fait.
Exactement.
C'est pour ça que le chambrage est souvent mal vu, mal pris. Et
disons quand même.
Si on peut éviter, ouais.
En ce moment, on a quand même pas une bonne image en France avec ce qui s'est passé à Lille, ce qui s'est passé hier soir, ce qui s'est passé vendredi soir aussi en Ligue 2. Enfin voilà, c'est.
Oui, à Auxerre.
C'est assez malheureusement en ce moment récurrent et. Et c'est bien dommage pour nos pitchouns, comme on parlait tout à l'heure, dans les clubs amateurs. Quoi.
Et pendant qu'on parle de ça, il y a Quentin qui se lève, il est en train d'enlever son maillot et de montrer à tous ses adversaires du soir le maillot avec son nom. Et c'est donc Quentin et Léo qui remportent ce quiz. Mais félicitations, messieurs, 9-1 dans l'histoire d'Oxyfoot. J'ai pas une souvenir première. D'une telle démonstration. Surtout qu'en plus, c'est Quentin qui répond aux 9 questions.
C'est la fois où Jean-Christophe Demu est venu du TFC. Alors, il y avait une question à laquelle il n'avait pas répondu. Donc, il y avait 8-1. C'était Fabien, d'ailleurs, Calabrese, il me semble, qui était là. Mais oui, après,
bah, sinon, c'est fort. Bravo. Bravo, Quentin. Et
bravo,
merci.
Léo aussi, c'est une équipe.
Bravo, Léo.
C'est oui, je suis là pour l'encourager quand même.
C'est
et bravo aussi à Kevin avec ses anecdotes.
Ouais.
Qui ne rapporte pas de points.
La prochaine fois, on va les mettre. Mais bon, on a gagné sur le terrain avec David ce week-end, les deux. Donc, c'était peut-être plus pour nous le plus important.
Pour vous, c'est le plus important.
C'est ça.
En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette 17e émission d'Oxyfoot. Retrouvez l'émission sur le site de la radio occitaniepremière.fr, rubrique, podcast, mais aussi sur notre site partenaire footpi.fr. Retrouvez-nous aussi sur le compte Twitter de l'émission, @oxyfoot. Merci à mon équipe, merci à vous David Quadri aussi d'être venu ce soir. Et merci à Jean-Loup Arzac en régie. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission d'Oxyfoot. Bonne semaine à tous.
Ciao.
We made a careful mother nature. The instinct wins.